now.
Attention, vous êtes sur écoute. Attention, vous êtes sur écoute.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur écoute, comme tous les soirs du lundi au jeudi de 18h à 19h, votre rendez-vous d'actualité locale sur Radio Campus Rennes. Bonsoir tout le monde.
Coucou.
Salut,
bonsoir.
Bonsoir.
Alors ce soir, émission avec les deux autres services civiques, je crois que vous avez jamais eu tous les deux ensemble.
Si, c'est déjà arrivé.
Ensemble,
si, peut-être une fois, ouais.
Ah ouais. Bref, donc Timothée, tu es avec nous ce soir pour nous parler d'un sujet que les auditeurs de Radio Campus ont certainement entendu dans Enjeux de santé. Hein, tu nous parles de la consommation de coke à Rennes.
C'est ça, oui, un petit reportage voilà. Avec deux invités que j'avais reçus en studio et qui est diffusé en ce moment sur les ondes de Radio Campus Rennes. On y revient tout à l'heure.
Voilà, et donc on aura un petit condensé de Enjeux
exactement.
De santé. Et puis ensuite avec toi Léon, donc Léon et Vincent, vous êtes cofondateurs d'Urtica S, donc l'association... Alors comment on l'a défini votre asso?
Je sais pas. Tu vas t'en occuper, Vincent. C'est une association qui organise des événements pluridisciplinaires, surtout autour de l'art contemporain en général, mais qui organise donc des expositions un peu particulières, puisque ce sont des expositions qui ont lieu dans des appartements, ou alors, comme là on en parlera pour le sujet pour lequel tu nous as fait venir aujourd'hui, l'EFPO, des expositions dans des appartements, mais également dans la rue.
Voilà, une exposition,
public.
Disons, itinérante.
Voilà,
c'est l'idée. Donc on reviendra sur le sujet. Et puis, comme chaque soir, en attendant, c'est Julien pour le Flash Info.
Alors, à l'international, le virus Ebola est éradiqué au Libéria. L'épidémie a été stoppée officiellement le 9 mai, après 42 jours sans avoir enregistré de cas. C'est une grande victoire pour l'Organisation Mondiale pour la Santé, l'OMS, ainsi que pour le pays d'Afrique de l'Ouest qui compte 4700 décès sur 10500 cas recensés. Les États voisins que sont le Sierra Leone et la Guinée doivent continuer le combat contre le virus qui a déjà fait plus de 11 000 morts. En France, la vitesse sera limitée à 80 km/h sur certaines routes. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, veut par cette expérimentation faire baisser les chiffres de la mortalité qui ont augmenté pour la première fois en 12 ans, plus 3,7%. Trois tronçons sont concernés dans les quatre départements que sont la Drôme, la Nièvre, l'Yonne et la Haute-Saône. À Rennes, les habitants du 94 rue de Châtillon se sont exprimés à travers un communiqué. Les personnes occupant la maison de Marie-Vonne Tamin y expliquent la précarité de leur situation ainsi que l'état dans lequel la demeure a été trouvée et se défendent d'occuper illégalement cette dernière puisque Madame Tamin n'en fait plus sa résidence principale et permanente. Ils indiquent pour finir ne pas contester la décision de justice et ne céderont pas aux menaces à leur encontre. Et le logement, il en est aussi question au sud-ouest de la ville, puisque 400 logements sont attendus dans la zone d'aménagement concerté de la Madeleine, derrière le pont de Nantes. Des parkings sont aussi inclus dans ce nouveau plan d'urbanisme, dont la conclusion devrait intervenir en 2018.
Merci beaucoup Julien. Et donc avant de revenir sur les sujets qu'on a évoqués en début d'émission, on va écouter un petit morceau, on va écouter Super Chi, On the Grind. Je le dis super mal. Alors, je vois Léon qui rigole. Vas-y, dis-le.
Ah, toujours les titres en anglais. Super Psy on the Grind.
Ok, très bien. Et bon, on va écouter ça tout de suite. Drop the beat on him. My name is Chords. The tune to the sounds of Super Psy, Flyphonic, Baby Arc, Mr. Now. You know how we get down, bro. Yeah. Chillin'. Ha. When I'm on the grind, somebody's always tapping on my shoulder, and I'm trying to get a peace of mind, but I just can't find the time. My baby's always calling me, crying on the line.
Won't you please come home to me?
Sometimes I want
wonder how this rapping thing would look like without a hundred other crappy things that took my attention and time away from this rhyme I'm trying to say. Trying to conquer the world, but ain't got time today. I'm on a grind today, until when? I don't know. Striving for pursuing my goals, but moving kind of slow. Gotta find the dough, gotta pay the rent. On the grind for show, got a lady friend saying that she loves me and asking later when the album dropping, the video shot, yo, maybe then. Could we find a little time to chill and play again and not fall asleep after sex but hit the hay again? But working later than Letterman's the state I'm in. I'm married to this music making, but I hate it when I have to end up wondering where my baby went. But for now, don't tap my shoulder, play that break again.
When I'm on the grind, somebody's always tapping on my shoulder and I'm trying get the peace of mind, but I just can't find the time. My baby's always calling me, crying on the line.
Won't you please come home to me?
Now pretty, pretty please, I roam the city streets. Little bit of sticky green clears up my mind when I'm in between a rock and a hard place. They got me speeding like a cop in a car chase. Don't stop and I don't break. See, time flies, so I'm living it up. I always check my stopwatch and I divvy it up. Between the ladies and the studio, I hardly see my family. I'm playing and I'm doing shows, caught up in it gradually. I miss my mother, miss my sisters and brothers, but I gotta keep working, can't listen to others. And I'm caught up right now, but I'll visit this summer. And when the album drops, I'll blow y'all a kiss on the cover. But for now, I'm chilling right here, music filling my ears. Been through it and you knew it, I'ma do it till my mind clears. It ain't a joke, forget the hocus and focus. When I'm in the booth, I'm totally focused.
When I'm on the grind, somebody's always tapping on my shoulder and I'm trying to get the peace of mind, but I just can't find the time. My baby's always calling me, crying on the line.
Won't you please come home to me?
Yo, this just ain't how I plan it will work out. I pop the bass in my cans, oh man, I put in work now. But right now it ain't working for me. Got so much weight on my back that it's hurting my knees. I can take it to a certain degree, but not for long. Stop pulling my arm, man, I'm putting down a bomb. I can feel it in sight, it's a classic in the making. Let the feeling compensate for the bread I ain't breaking. I'm sick of gut pains, the stress, my head aching. Music made me tick, but it's a tricky situation. Grind it like a 9-to-5, but don't get paid like one. Soon as I can find a time, I'ma raise my son. And my girl is stressing me to get a proper job, so we can get a proper car, get rid of the rusty Saab. And how about going on a nice vacation? This album better start breaking.
When I'm on the grind, somebody's always tapping on my shoulder, and I'm trying to get a peace of mind, but I just can't find the time. My baby's always calling me, crying on the line.
Won't you please come home to me?
When I'm on the grind, somebody's always tapping on my shoulder and I'm trying to get a peace of mind, but I just can't find the time. My baby's always calling me, crying on the line.
Won't you please come home to me?
Bah, je laissais Léon déjà annoncer la chanson, tiens. Et tu n'as plus le titre.
C'était Super Sai avec Off the Grind.
Merci beaucoup, Léon. Et donc, on l'a dit en début d'émission, et vous l'avez peut-être entendu sur les ondes de Radio Campus Rennes, hein, le dernier numéro d'Enjeux de Santé revient sur la consommation de coke à Rennes avec deux invités, Guillaume Pavic, coordinateur d'un dispositif d'observation locale, le dispositif Trend, et Nicolas Legendre, rédacteur en chef du mensuel de Rennes, qui avait donc consacré son numéro du mois de mars 2015 au phénomène. Alors ce soir, petite séance de rattrapage en condensé avec toi, Timothée, pour parler de la consommation de cocaïne. On commence donc par écouter Guillaume Pavic qui nous explique ce qu'est le dispositif Trend.
C'est un dispositif qui permet de fournir en complément des dispositifs existants, notamment les enquêtes en population générale du type baromètre santé, des éléments de connaissance sur les phénomènes émergents liés aux usages de drogue, que ce soit en termes de description des usagers, les modalités d'usage du produit, les dommages sanitaires et sociaux associés à la consommation de produits, les produits émergents, les modalités d'acquisition de proximité, autrement dit le trafic, et les perceptions et représentations des produits. Donc le dispositif Trend existe depuis déjà une quinzaine d'années en France et est piloté nationalement par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Il existe 7 sites en France, Lille, Metz, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Paris et Rennes. Les 7 sites ont la même méthode de travail pour le recueil d'informations et l'analyse de ces informations. Chaque année, chaque site produit donc un rapport qui permet d'avoir une photographie assez précise sur la consommation de stupéfiants. Nos observations portent sur l'espace urbain, à Rennes, et sur l'espace festif, plus largement sur toute la Bretagne. Mmh. Donc, sur la cocaïne, on peut dire que c'est un produit, on s'intéresse à tous les produits d'entraîne, mais c'est un produit sur lequel on porte une réelle attention. C'est un produit illicite, c'est le deuxième produit illicite le plus consommé en France, après le cannabis, mais très très loin après le cannabis. C'est vraiment deux phénomènes très très différents. Il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre la consommation de cannabis et de cocaïne. Sur la population générale, en gros, il y a 5% d'expérimentateurs de cocaïne contre plus de 30% pour le cannabis.
D'accord.
Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures. Et l'usage régulé de cocaïne est globalement relativement faible quand même en population générale. Par contre, notre observation plus locale montre que la cocaïne est un produit qui est relativement présent, accessible, mais ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Le phénomène est observé déjà depuis quelques années. Effectivement, la cocaïne, c'est un produit qui est très très largement associé à la fête.
Alors Timothée, on voit avec le dispositif Trend que l'on observe les usages, mais est-ce qu'on s'intéresse aussi au trafic du produit ?
Alors effectivement, le rapport annuel du dispositif renseigne sur les différentes modalités d'acheminement du produit dans la région Bretagne, qui, je le rappelle, est l'une des régions françaises les plus consommatrices de cocaïne en France, si ce n'est la plus grosse consommatrice de France. Donc il est intéressant de voir dans le rapport des dernières années que le volume de cocaïne qui circule sur Rennes, et plus généralement en Bretagne, n'a pas beaucoup évolué, même si le nombre d'arrestations augmente chaque année. Alors ça s'explique notamment par les orientations judiciaires qui, d'année en année, vont essayer de multiplier le nombre d'interventions. Les quantités saisies, pour donner quelques exemples, peuvent être assez impressionnantes. 23 kilos, par exemple, avaient été saisis en 2013 dans le quartier du Blône. Cependant, on n'est pas dans un film hollywoodien, on est loin des images des go-fast hyper impressionnantes. Mais il faut savoir que le produit en Bretagne est acheminé par des go-fast très rarement, mais aussi et surtout de façon go-slow. Je vous propose d'écouter Guillaume Pelly.
Le go-fast, c'est quelque chose qui... c'est le transport express de quantités assez importantes de marchandises. Pas que de la cocaïne, ça peut être sur tout type de produits stupéfiants. Donc c'est quelque chose qui est plutôt médiatiquement très très remarquable quand il en arrive. C'est assez rare en Bretagne, il y en a déjà eu. Je crois que le dernier, ça doit être en 2012, dans la région entre Brest et Quimper. Mais c'est très très rare. On est plus effectivement sur des phénomènes donc, à l'inverse qu'on qualifie de go slow. Donc ça ne veut pas forcément dire du transport lent, mais plutôt du transport anonyme. Mm-hmm. La logique des transporteurs, des trafiquants, c'est d'être le plus discret possible. Mais que ce soit pour la cocaïne ou pour tout autre produit. Et c'est vraiment cette logique des transporteurs, c'est d'être anonyme. Et c'est vraiment un phénomène qu'on observe depuis pas mal d'années maintenant.
Alors Nicolas Legendre et son équipe du mensuel de Rennes sont allés voir du côté des forces de l'ordre, la police, gendarmerie et section de recherche, pour voir si des réseaux plus précis étaient identifiés. Il semble que cela soit le cas, mais qu'il y a un fossé entre la connaissance des réseaux et la capacité des forces de l'ordre à intervenir dessus.
Ce que eux disent, c'est que on a affaire aux filières traditionnelles. Mmh. Quand je dis filières traditionnelles, c'est filières liées au trafic de drogue. Celles qui sont mentionnées en premier lieu, ce sont les filières algériennes, marocaines, albanaises. C'est celles-ci qui sont évoquées. Donc ce sont des individus qui œuvraient, par exemple, dans le passé, sur du trafic de cannabis, c'est ce qui sont adaptés à la demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande de cocaïne, donc le dealer qui revendait du cannabis a diversifié son offre et s'est mis à la cocaïne. Ça, c'est le schéma global. Après, il y a des parcours qui sont extrêmement différents, etc. Mais c'est en tout cas ce que rapportent les forces de l'ordre en ce qui concerne, disons, une image globale, quoi. Entre l'identification et l'arrestation, ensuite le passage devant la justice, il y a quand même un fossé, quoi. C'est-à-dire que, qui est notamment lié à la problématique des moyens des forces de l'ordre. C'est-à-dire que nous, ce qui nous est apparu, c'est pas dit tel quel, mais c'est que l'enquête sur les filières cocaïne, c'est pas forcément la priorité numéro un des services de police et de gendarmerie. Ce qui fait que les moyens sont limités, ils sont d'autant plus limités que le sujet est pas prioritaire. Résultat, on peut très bien identifier des filières sans avoir les moyens de les remonter et d'arrêter les personnes liées à ces filières.
Alors, au niveau local, les réseaux identifiés sont d'autant plus difficiles à appréhender qu'ils sont organisés généralement, comme de véritables entreprises avec une division du travail extrêmement complexe.
Ce qui ressort, c'est que les organisations sont généralement très très bien huilées, avec une structuration pyramidale. Ils ont beaucoup de mal à pouvoir atteindre souvent le sommet de la pyramide. C'est très compliqué. Autant faire des affaires sur des consommateurs, de l'usager-revendeur dans la rue, c'est assez simple. Mais pour atteindre les têtes de réseau, c'est beaucoup plus compliqué pour eux.
Et au-delà du trafic, on entend à longueur du temps que la consommation de cocaïne s'est démocratisée, ce qui laisse supposer finalement qu'elle serait désormais accessible à l'ensemble des classes sociales.
Alors sur ce point, c'est un peu complexe. Le problème, c'est surtout de savoir si on parle de démocratisation ou de popularisation, et selon quel terme. Alors si on prend comme référence les conditions socio-économiques des personnes, on observe que la dite démocratisation du produit n'est pas vraiment une réalité sociologique, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Selon les dernières enquêtes, un gramme de cocaïne se vend entre 65 et 85 euros. Le prix peut donc expliquer cet irréalisme, on va dire, sociologique. Mais on observe bien quand même des phénomènes d'achat groupés chez les plus jeunes, ceux qui n'ont pas, par exemple, les moyens pour le faire seuls. Mais toujours est-il qu'elle n'est pas consommée dans n'importe quel milieu social. Si elle continue d'être consommée majoritairement dans certains milieux, elle s'est quand même répandue, il faut l'avouer, de façon inattendue au sein de certaines professions.
Effectivement, c'est un produit qui reste encore assez cher et pas accessible à tout type de population. C'est effectivement, le prix peut être un élément dissuasif à la consommation. Et on remarque que les consommations chez les plus précaires sont assez rares. Et du coup, les usagers qui souhaitent quand même consommer des stimulants peuvent se rabattre sur d'autres types de produits qui seront moins chers, notamment les amphétamines. On va être sur un produit à 15-20 euros le gramme. Donc là, c'est plus accessible.
Bon, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que la démocratisation, elle a lieu chez ceux, justement, qui ont les moyens de dépenser ces 65 ou ces 70 ou ces 80 euros du gramme. C'est vrai qu'en deçà, on a affaire à des populations pour qui c'est plus compliqué, notamment les mineurs, etc., qui n'ont pas forcément les moyens suffisants. En revanche, chez les personnes employées, ouvriers, etc., qui ont un salaire, je pense que c'est là qu'on observe une certaine démocratisation. Et dans notre dossier, il y a cet enquêteur qui nous cite l'exemple des marins pêcheurs. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, etc. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il a constaté la consommation de cocaïne chez des marins pêcheurs. Or, ce n'est pas forcément la population qu'on imagine en premier lieu, en tout cas. Ce n'est pas le stéréotype du consommateur de cocaïne.
On voit donc que la profession exercée par certaines personnes, parce qu'elle induit une activité physique importante ou des horaires atypiques, constitue un facteur de risque à ne pas négliger, même si cela est très difficile à observer.
Puis on peut penser aux professions, milieu de la nuit, des choses comme ça. Mais nous, c'est des données auxquelles on n'a pas vraiment accès. Là, on va être sur la sphère professionnelle ou la sphère privée. Et nos observations ne se portent pas sur ces populations parce qu'on n'a pas les moyens de le faire.
Et d'ailleurs, plus généralement, c'est la question même des profils des consommateurs qui est complexe à aborder, même si l'on parvient à distinguer des profils en fonction de la fréquence de la consommation. De ce point de vue-là, nous savons que les personnes dépendantes à la coke sont largement minoritaires. Cela s'explique principalement par le fait que la composition chimique de la cocaïne soit moins addictive que l'héroïne ou d'autres produits.
Exactement, puis il faut aussi ajouter que la variété des contextes de la consommation va complexifier l'observation, puisque la cocaïne est majoritairement consommée dans un cadre privé, bien que certains bars aient été concernés par le problème et continuent de l'être à l'heure actuelle. C'est ce qu'a révélé l'enquête du mensuel de Rennes.
Des témoignages qui ont été difficiles à collecter, je précise, parce que ça, on a beau parler de démocratisation de la cocaïne, pour nous, le travail d'enquête a été extrêmement difficile, parce qu'on a beau connaître des gens qui consomment, on a beau qui consomment ouvertement, qu'ils le disent, les faire parler du sujet, c'est très difficile. Idem pour les patrons de bar qui sont au contact justement des consommateurs au quotidien, ça a été pour nous délicat et ça a pris du temps. Mais effectivement, on a plusieurs d'entre eux, donc des patrons de bar ou des serveurs, qui ont témoigné à ce sujet et qui disent que ça peut être compliqué parce qu'ils se retrouvent avec des consommateurs dans leur toilette. Donc ça peut créer un peu le bazar, mm-hmm. avec des gens qui viennent au comptoir et qui demandent carrément au serveur, eh ben, tiens, t'as de la C, ou alors tu sais où je peux trouver de la C, etc. Bon, c'est pas non plus l'émeute, hein, faut pas sur-amplifier. Mais effectivement, certains de ces patrons de bar nous ont fait part de difficultés liées au sujet.
Et sinon, Timothée, un dernier point important à aborder, c'est quand même la qualité des produits disponibles.
Tout à fait, oui, puisque le trafic de coke dans la rue, c'est quand même souvent basé sur le principe de l'arnaque. Hein. Tout le monde a pu l'expérimenter dans ceux qui ont voulu acheter quelque chose. Le mensuel de Rennes, hein, par exemple, s'est prêté à l'exercice et a réussi à acheter un gramme de cocaïne en moins de 10 minutes à République. Bon, leurs locaux sont situés place de la REP, donc ils ont réussi en moins de 10 minutes à choper, comme on dit, un gramme de coke. Après analyse, il s'est avéré que le pourcentage de cocaïne pure contenu dans le gramme acheté était si minime qu'il n'aurait provoqué aucun effet au consommateur. Il y a donc une question importante du point de vue des produits de coupe, puisqu'on peut trouver un petit peu de tout dans la cocaïne.
Alors pour les produits de coupe, tout est possible en fait. J'ai envie de dire, toute poudre à texture cristalline peut être un produit de coupe. Hein. Tout ce qui va ressembler à de la cocaïne sera mis dans le produit. Alors parmi les produits de coupe les plus fréquemment utilisés, on va trouver le lactose, hein, le paracétamol, beaucoup le paracétamol. Et la caféine, plus rarement, mais ça existe aussi, des médicaments, et qui peuvent du coup entraîner des effets indésirables. Ça peut arriver. Sur les saisies effectuées par les forces de l'ordre, qui se font bien en amont des ventes, les taux de pureté de la cocaïne sont plutôt bons. On va être sur des cocaïnes 60-70% de taux de pureté. Et c'est incomparable avec ce qui va être retrouvé sur le deal de rue, où on a des cocaïnes avec des taux de pureté qui sont extrêmement faibles, qui laissent à penser que le produit est vraiment beaucoup, beaucoup coupé.
Donc voilà, merci beaucoup donc Timothée pour ce reportage. Et nos amis auditeurs peuvent retrouver le reportage complet sur la page Enjeux de santé via le site de Radio Campus Rennes, www.radiocampusrennes.fr.
Merci Cyril de ton accueil.
Et donc, alors là, on va continuer avec une musique. Donc, comme Rock'n'Solex est dans 4 jours et que Radio Campus Rennes est partenaire, on va écouter un groupe qui se produira donc la première soirée, enfin la soirée du jeudi soir, The Fat Badgers, Cause I Never. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Restez bien sur écoute. We'll be right back. C'était The Fat Badgers, Cause I Never. Vous êtes bien sûr écouté, nous sommes toujours en direct. Et après donc Timothée, service civique numéro 1, Léon, service civique numéro, numéro 2 et Vincent. Bonsoir.
Salut.
Rebonsoir. Oui. Donc ce soir on vous accueille, alors Léon on t'avait déjà eu dans l'émission pour parler d'Urticaes, donc peut-être que tous les deux vous pouvez revenir un petit peu sur Urticaes, cette association dont vous êtes tous les deux les cofondateurs.
Alors oui, Urticaes c'est une association qui est née à la suite d'un collectif du même nom qui est né à Montpellier. Donc à l'époque nous on avait trouvé ce nom-là pour faire le relais en fait de nos créations, hein. On était étudiants en arts plastiques et donc on s'était rejoints sous ce nom-là, donc sous ce collectif-là. Donc on proposait des vidéos à l'époque, pas mal de scénettes, des vidéos expérimentales, des clips aussi. Et peu après, on était alors à Montpellier à la barre de l'association étudiante de cinéma, qui s'appelait L'écran et son double. Et on a eu l'occasion en fait de réfléchir à des événements donc, qui pouvaient toucher un petit peu le campus et valoriser les travaux étudiants.
Donc ouais, on avait sollicité le FSDIE pour faire la première édition de ce qu'était l'EFPO. Donc l'EFPO qui s'appelait initialement l'EFPO Fifion. Et bon, pour ceux qui connaissent un petit peu Urticaes, moi déjà la dernière fois quand j'étais passé, j'avais parlé des soirées riposte. Donc soirées riposte, le principe c'est 18h, 23h, une exposition dans un appartement, parfois des partenariats. Récemment on a fait un partenariat avec Générator, le programme du 40 mètres cubes, juste après Roulement de tambour, un festival de musique. Donc l'EFPO en fait... Nous, ce qui nous a amené en arrivant à Rennes à reprendre les soirées riposte, c'était la proximité que ça pouvait avoir avec ce qu'on avait déjà fait auparavant, à savoir donc, ces soirées qui commencent à partir de 21h, durent jusqu'à 5-6h du matin, se profilent comme un grand parcours en fait, entre plusieurs étapes, donc soit des appartements, soit des lieux dans la ville, quoi, en extérieur. Et on sollicite beaucoup d'artistes de divers horizons, autant plasticiens, sculpteurs, vidéastes, photographes, performeurs, danseurs, voilà, autant spectacles vivants qu'art plastique, quoi.
D'accord. Et donc justement, donc c'est pas la première édition hein, cette année.
C'est la cinquième.
Voilà. Donc pour que les gens puissent un peu imaginer ce que ça peut représenter, ça ressemble à quoi la quatrième édition, par exemple, pour que les gens puissent imaginer qu'est-ce que vous entendez par déambulation, comment ça s'articule, où on va, ce qu'on voit, etc.
Alors, on donne rendez-vous à un groupe, un premier groupe, donc qui se limite à peu près 30 personnes. C'est sur réservation. C'est la plupart du temps, c'est un guide qui vient chercher ces personnes-là, mais ça peut varier. Enfin, d'une édition à l'autre, on peut avoir plusieurs guides. Ou... Enfin, voilà, c'est très, très, très différent à chaque fois. Ouais. Et puis, c'est parti, le cortège est envoyé. On passe à la précédente édition, par exemple. On a commencé dans un parc. Il y avait des performances. On pourrait énumérer, Vincent, tout un tas de performances, peut-être, pour donner
une petite idée. Alors, ouais. on démarrait au niveau des Prairies Saint-Martin.
Oui.
Donc on traversait un petit pont duquel on pouvait entendre de la musique qui était jouée depuis un bosquet, non loin de là. Le guide présentait un petit peu la faune et la flore ambiante. Et en fait, il y a plein d'événements qui viennent perturber comme ça ponctuellement le cortège. Donc ça peut être des choses très anecdotiques, comme des performances, des choses qui sont peut-être un petit peu plus travaillées.
Une personne qui passe nue sur un vélo ou alors un arrêt vraiment figé avec une mise en scène, une scénographie d'une personne morte étouffée sur une table avec un grand banquet autour d'elle. Enfin voilà, c'est
On essaie de penser des choses qui puissent vraiment ponctuer en fait ce parcours-là, des choses poétiques, surprenantes, étonnantes ou idiotes parfois. et donc voilà, donc le cortège va traverser les Prairies Saint-Martin. En apprenant quelques petites informations sur les lieux. Et puis vient un moment où le guide va se faire tuer par un
autre guide. Okay.
Une autre édition, il s'était fait enlever par trois braqueurs en voiture. Donc ça rebondit, quoi.
Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est pas voilà, seulement c'est... une ambulation très...
C'est un petit peu mis en scène. Et donc, une fois le guide tué, un autre, son assassin prenait le relais. Et se faisait un peu sa part obscure, et donc amener les spectateurs vers le lieu suivant, qui était une étape où là, c'était une performance participative, qui ne l'était pas initialement, mais les deux performeuses étant dans le cortège, quand elles ont démarré leur performance, tout le monde s'est mis à les suivre.
D'accord.
Donc ça fait partie des petites surprises que nous prépare le parcours en général.
Et donc justement cette année
comment ça se profile
voilà, parce que j'ai vu que là il y avait un appel à projet pour l'instant.
On procède un peu toujours de la même manière. On commence d'abord par un énorme appel à projet où on a vraiment besoin de tout le monde. Alors tant du coup les artistes qui vont nous aider sur le parcours à trouver des idées, à participer, à performer avec nous et avec d'autres personnes, autant des exposants, donc là qui vont vraiment proposer des travaux figés dans des espaces, des appartements ou quoi, par lesquels on sera amené à passer au cours de la soirée, des musiciens aussi, puisque la dernière partie de la soirée doit se terminer par un concert ou un DJ set. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un grand appel pour avoir autant des lieux donc, que des personnes qui vont s'impliquer dans le projet. Et il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps, donc on a vraiment besoin de beaucoup d'aide.
Donc c'est vraiment un gros appel, parce que normalement ça se situe fin mai, hein, l'événement, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Voilà, donc gros appel de monde. Là, vous avez besoin encore de tout à peu près.
Ouais, c'est à peu près ça. Ouais.
On a eu
quelques propositions, mais c'est toujours pareil. Il nous en faut le plus possible pour pouvoir après organiser vraiment quelque chose avec beaucoup de monde sur le même temps, quoi.
Voilà. Et donc, comme tu le disais, peut-être aussi parler à la fin. Vous vous séparez pas juste comme ça. Vous finissez dans un appartement où il y a
un appartement ou un grand lieu. Il nous est arrivé de finir dans l'atelier vélo de Les Labos, une autre fois dans une grande maison, une colocation. Les années précédentes, c'était une fois dans une salle, une fois encore une autre maison. Donc, c'est un peu au petit bonheur la chance. La plupart du temps, c'est vraiment, on organise, on se fait nos repères et les lieux par lesquels on passe selon les propositions qu'on a reçues. On essaie de s'arranger pour que le parcours ne soit pas non plus immense, qu'il soit accessible pour tout le monde, qu'on n'ait pas à les faire marcher pendant des heures et des heures. Et puis voilà, quoi.
D'accord. Et il n'y a pas de... Enfin, c'est un truc auquel je pensais... Il n'y a pas de thématique précise ?
Pas spécialement.
Alors disons que la thématique, elle se construit un petit peu en même temps que la mise en scène. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de choses très différentes qui vont être proposées. En fait, notre travail, ça va être de composer avec tous ces artistes, avec toutes ces propositions, parce qu'il y a des comédiens, il y a des gens qui ne se revendiquent pas artistes, en tout cas, qui viennent pour participer en fait à l'élaboration du parcours, qui vont être amenés à, comme c'était le cas l'an dernier, à assassiner le guide ou intervenir sur d'autres aspects du parcours. Et donc ce qui se passe, c'est que nous, on travaille en fait avec tous ces gens-là, on les invite sur le parcours, on va travailler ensemble, en fait, analyser un petit peu ce qui se passe dans les espaces publics et les espaces urbains, et faire un brainstorming, et en fait, travailler ensemble à construire, donc à ponctuer, à emplir l'espace, à la suite de quoi, ou en complément de quoi, on peut avoir déjà des idées sur le pourquoi du comment les spectateurs vont être amenés à se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc ça, en fait, c'est généralement ce qui va déterminer en fait un petit peu la thématique qui va chapeauter le tout.
Donc c'est autant de créations individuelles et de propositions donc plastiques, comme je disais tout à l'heure, de gens qui vont investir des lieux uniques, que de la création collective de gens qui vont participer avec nous à cette élaboration du parcours, quoi.
D'accord, ok. Et donc, alors je me tourne vers toi, Timothée, parce qu'il me semble que tu as déjà participé à une ancienne édition.
Bah oui, bah là, il parlait des différentes performances qui avaient été faites l'année dernière. J'en avais oublié certaines, celles qui étaient participatives, où on s'était tous accroupis et ça partait dans tous les sens. C'était assez fabuleux. Donc, l'année dernière, donc, c'était comme vous l'aviez dit, dans les prairies Saint-Martin. C'était assez stupéfiant, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits qu'on n'imaginait pas du tout être investis par des artistes ou des comédiens. Puis tu tournes la tête à gauche, ah bah tiens, il y a une scène, ils sont tous immobiles, ils font ci, ils font ça. Tu retournes la tête, ah bah tiens, ils font autre chose. Et ainsi de suite, et ça avait terminé par une espèce de grand banquet, finalement, grande exposition, comme un banquet finalement, dans une maison assez immense, et dans laquelle, à chaque fois, ils avaient réussi à créer une certaine cohérence artistique, en fait. Il y en avait une qui était un peu trash, il me semble, dans le garage, où c'était plutôt orienté porn, etc. Et il y avait des choses qui étaient beaucoup plus lunaires, voire peut-être un peu rêveuses, c'était plus enfantin. Il y avait je me souviens, de nuages cotonneux qui étaient accrochés au plafond, etc. Donc il y avait énormément d'ambiances différentes, en fait, dans l'expo finale, dans la grande maison. Donc c'était un super parcours, quoi.
Merci.
Oh, c'est mignon. Mais alors justement, j'avais deux questions, une toute simple, parce que bon, on voit que c'est jamais très évident d'occuper. Vous avez demandé des autorisations pour occuper la rue, le prairie Saint-Martin, non
mais c'est très bref en fait. C'est des passages super brefs. Donc on ne demande pas effectivement d'autorisation pour dire à un moment, par exemple, on a eu un radeau sur le canal Saint-Martin, trois étudiants de l'ESAP qui avaient fabriqué un radeau et qui sont passés en même temps que les spectateurs, qu'on croisait les spectateurs. Mais bon, est-ce qu'on va vraiment demander à la mairie de Rennes de faire tous les papiers pour que des gens posent leur radeau sur le canal Saint-Martin, fassent un aller-retour de 3 minutes, ressortent de l'eau et que le parcours se poursuive? C'est pas encore arrivé.
D'accord.
Mais on sera peut-être amené à le faire, en tout cas, si jamais ça grandit, si jamais on le porte ailleurs, ouais, peut-être qu'on fera les demandes.
Et aussi, une question sur, au niveau du public, parce que vous le faites quand même fin mai, au niveau des étudiants, c'est pas la période où il y en a plein qui sont déjà partis. Ça vous arrivez quand même à... Enfin, c'est varié, c'est plutôt étudiant, on retrouve qui?
Ah ben alors, non, on commence à avoir un petit peu un public qui nous suit avec Urticaes, mais c'est vrai que sur l'événement de l'EFPO, on arrive à avoir un public un petit peu plus différent. Mmh. Alors c'est vrai que sur les ripostes, on a généralement des étudiants, des Beaux-Arts, des étudiants de l'université Rennes 2, et bizarrement sur l'EFPO, et ben on arrive à toucher des gens, on a eu des familles, on peut avoir des enfants de temps en temps, et la raison je la connais pas.
Ouais.
mais oui, alors le fait est que la jauge, parce qu'on peut peut-être appeler ça une jauge, est quand même très réduite. On a expérimenté un format avec deux cortèges, donc qui partaient avec 3/4 d'heure d'écart l'an dernier. En termes de logistique, en fait, ça se complique très vite parce qu'on a beaucoup de gens qui interviennent sur le parcours, qui sont amenés à faire une performance ou une intervention en début de parcours et se déplacer en suivant le cortège, ce genre de choses-là. Donc il faut prévoir son retour pour le cortège suivant, etc. Donc en fait, on va peut-être essayer d'en faire trois passages, oui, peut-être d'accord. Cette fois-ci, peut-être avec uniquement 20 personnes. Mais disons que les réservations se font quand même assez vite parce que voilà, le public est là, on a des contacts quand même, une boîte mail bien remplie, et puis pas mal de gens qui nous suivent sur Facebook. Mais donc voilà, hein, pour les publics...
Ouais, c'est assez hasardeux au final. D'une année sur l'autre, c'était vraiment des publics différents.
D'accord, bah, et justement, hein, vu que pour terminer, rappelez que vous cherchez toujours du monde, que vous faites toujours appel à témoins, et rappelez donc où on peut vous trouver, si on veut à la fois vous aider, participer, proposer des projets, et puis plus tard s'inscrire pour participer.
Alors c'est soit par mail à l'adresse urticaes@gmail.com, soit sur le Facebook à la page Association Urticaes.
Ok, voilà. Et donc voilà, et on retrouve aussi, et vous avez un Tumblr aussi qui rappelle un peu tout ce que vous faites. Voilà, et merci beaucoup Léon, merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Et puis on va écouter un dernier petit morceau de Guy Ogi, Qu'attendez-vous de moi ? On se retrouve dans quelques minutes.